Géopolitique. Corinne Manjou.
De dialogue critique en négociation de la dernière chance, la crise nucléaire iranienne n'en finit pas. Cela fait plus de 10 ans maintenant que ce dossier traîne, mais la nature militaire du programme nucléaire iranien se précise. L'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, vient de publier un rapport accablant sur cette question, avec des éléments de preuve inédits. Les experts de l'agence montrent clairement que la marche iranienne vers la bombe nucléaire, un temps ralenti, a repris son rythme de croisière. Pour la première fois, l'institution décrit de manière extrêmement détaillée l'ensemble des activités de militarisation conduites par Téhéran dont elle a connaissance. En langage diplomatique, le rapport fait état d'informations indiquant, je cite, que l'Iran a mené des activités visant à développer un engin explosif nucléaire. Fin de citation. Il n'en fallait pas plus pour conforter les Occidentaux dans leurs accusations et déjà, ils envisagent d'accentuer la pression sur Téhéran. Cependant, les points les plus importants du rapport de l'AIEA étaient déjà connus. Alors, pourquoi polariser sur le nucléaire iranien maintenant? En quoi le danger est-il plus grand aujourd'hui? Trois invités pour en débattre. Ramin Parent, dissident iranien, auteur de nombreux articles et ouvrages sur l'Iran. Bonjour, monsieur Parent.
Bonjour, madame.
Georges Le Gelt, ancien secrétaire du Conseil des gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Bonjour, monsieur Le Gelt.
Bonjour, madame.
Notre troisième invité, Ahmed Salamatian, ancien secrétaire d'État aux affaires étrangères en Iran, est au téléphone. Bonjour, monsieur Salamatian.
Bonjour, madame.
Alors, avant de commencer, est-ce que l'on peut rappeler les points saillants, les principaux points préoccupants de ce dernier rapport de l'AIEA sur le nucléaire iranien? Monsieur Parent?
Le dernier rapport, vous l'avez dit en quelques mots, la spécificité de ce rapport par rapport au rapport, disons, de l'époque El Baradei, c'est que pour la première fois, on parle clairement de l'intention militaire de ce programme nucléaire iranien et en donnant des détails révélateurs, c'est-à-dire des détails concernant le mécanisme de détonation, des essais à blanc, des bunkers en acier pour mener ces essais à blanc, modélisation informatique d'une tête, d'une ogive nucléaire et un programme balistique qui ne peut servir à autre chose qu'à véhiculer des ogives non conventionnelles. Donc, je pense que la spécificité de ce rapport tient en ça.
Monsieur Le Gelt?
Bon, j'ai pas grand-chose à ajouter. En réalité, c'est moins le rapport qui a provoqué tout cet émoi que l'annexe dans laquelle il y a tous les détails que vous venez de mentionner. C'est très technique. Et si on veut éviter des techniques, vous avez évité l'écueil. Mais si on veut ne pas être trop technique, il faut commencer par dire que dans cette annexe, on dit que l'Iran a reçu du réseau CAN, le Pakistanais CAN, qui lui a fourni également les techniques d'enrichissement d'uranium et des centrifugeuses. L'Iran a reçu les données concernant une arme qui a été expérimentée par la Chine dans les années 80, qui avait été également vendue à la Libye. Et là, je crois que le problème qui se pose, c'est est-ce qu'il l'a vendue également à d'autres. Mais donc, l'Iran a les données d'une arme chinoise, il sait que ça marche. Il a reçu également les données concernant les techniques de moulage de l'uranium métal. Et le rapport montre que, à partir de là, les Iraniens ont essayé de combler toutes les lacunes qu'ils avaient entre ces informations et la réalisation, bien sûr, hypothétique ou théorique, d'un engin capable d'entrer dans le cône d'un missile Shahab 3. Par exemple, et vous le soulignez, l'uranium sort des usines d'enrichissement sous une forme gazeuse qui est l'hexafluorure. Il faut le convertir en métal, ce qu'ils ont fait. Ensuite, ils ont étudié ça. Ensuite, le moulage en deux hémisphères, ils l'ont étudié également. Et puis, ils se sont procurés des explosifs de très haute intensité. L'histoire de ces explosifs serait d'ailleurs très intéressante, mais l'AIEA n'en parle pas. Pourtant, ce serait un épisode tout à fait intéressant.
Alors, il faut rappeler que toutes ces données importantes n'ont été reléguées en annexe qu'à la demande de la Chine et de la Russie pour atténuer les effets accablants de ce rapport.
Vous voyez à quel point c'est quand même quelque chose... C'est un peu se cacher derrière son petit doigt, parce que le fait que ce soit dans une annexe n'a pas empêché les gens de lire l'annexe.
De le lire.
Mais je veux dire, toutes les étapes ont été suivies, et par conséquent, en ce sens, c'est accablant. Mais il faut ajouter deux bémols quand même. C'est des informations qui, pour l'essentiel, remontent à 2003. La plupart étaient connues après, jusqu'en 2005. Et il n'y a que très peu de choses après cette date-là, et très peu de choses récentes. Et par conséquent, c'est accablant, mais on est accablé depuis 6 ans. Donc, on est dans cette situation-là. Et d'autre part, le deuxième bémol, c'est que le rapport ne dit pas si, oui ou non, l'Iran détient maintenant toutes les informations pour fabriquer cet engin qui pourrait être mis sur un Shahab 3. Donc, on reste dans quelque chose qui est pas très différent de ce qu'on savait avant la publication du rapport.
Alors, Ahmed Salamatian, un mot sur ce rapport.
Si vous permettez, comme vient de dire M. Gold, si on regarde bien ce rapport, si je veux utiliser un langage un peu juridique, je dirais qu'il n'y a pas tellement de faits nouveaux qui ne soient pas connus auparavant. Il n'y a pas beaucoup de preuves nouvelles qui ne soient pas avancées auparavant. Ce qui est nouvel, c'est une procédure nouvelle, c'est une forme de mise en ordre de ces charges par le directeur général de l'agence qui prend beaucoup plus que ce soit un rapport d'investigation, une certaine forme de charge de mise en accusation. Cette clarté de la mise en accusation, c'est exceptionnel, mais à part ça, sur lequel il faut essayer de savoir pourquoi, à ce moment-ci, l'agence prenne d'un seul coup l'ensemble des éléments qu'il avait auparavant et ils le mettent en forme d'une certaine forme de l'acte d'accusation, ça, pour moi, ce n'est pas tellement juridique, c'est une question beaucoup plus politique, complexe, qui demanderait d'autres explications.
Est-ce qu'on peut traiter ce dossier nucléaire en excluant le politique, justement, Monsieur Salamatian?
Non. Malheureusement, nous vivons dans une situation où les différentes imbrications de dossiers iraniens, la situation de la région, la situation internationale, ne serait-ce que si je veux faire une allusion, en Iran, on prépare une élection, aux États-Unis, on prépare une élection, en Israël, il y a une crise politique interne dans la coalition gouvernementale, et d'une certaine manière, le dossier nucléaire iranien est en train de s'inscrire dans l'agenda des politiques intérieures des uns et des autres. Et chaque fois qu'une crise internationale entre dans une forme d'articulation directe avec les données et les mécanismes de politique intérieure, ça devient beaucoup plus complexe et son évolution peut échapper à tout le monde. Aujourd'hui, on voit de temps en temps des discours alarmistes d'un côté ou de l'autre qui ont autant, sinon plus, des explications électorales internes qu'externes. Dans une situation où des extrémistes d'un côté ou de l'autre prend le cheval de radicalisation de discours international, c'est possible à ce moment-là, étant donné qu'en fin de compte c'est la politique intérieure qui prédomine pour tout le monde, que les éléments de contrôle de crise internationale échappent à tout le monde. Et cette crise est trop grave, trop importante pour qu'on ne fasse pas attention et qu'on n'essaye pas d'une certaine manière séparer, même si c'est difficile, ces interconnexions et ces relations de la politique et des stratégies électorales du moment avec le fond du problème nucléaire iranien qui, comme le problème de prolifération nucléaire, c'est un des problèmes les plus graves de décennies passées et les décennies à venir.
Ramin Parent.
Oui. Écoutez, je suis très content que monsieur le sous-secrétaire d'État soit là, parce qu'il est en général difficile, de mon expérience du moins, plateau télévisé ou radiophonique, il est difficile d'avoir un représentant du régime islamiste iranien.
Je ne suis pas représentant du régime islamique. Alors, attendez. Je m'excuse, madame. Si aussitôt qu'on commence à parler de raison, de complexité d'un problème, on est accusé d'être représentant de tel ou tel régime, je coupe et je vous laisse avec les gens de confiance que vous avez.
Non, monsieur.
Non. Que votre intervenant retient, je suis beaucoup plus haï par le pouvoir iranien
oui,
que
tout à fait.
D'ailleurs, il suffit de regarder les émissions de la télévision et la radio iranienne qui me présentent comme un général de la guerre médiatique contre son pays.
Non.
Ok. D'accord. Donc, ouais, okay,
non
donc
pas le monsieur qui vient dire des bêtises pareilles.
D'accord. Oui. Mais c'est retenu, monsieur.
Je suis désolé.
Monsieur l'ancien sous-secrétaire d'État, ce que vous venez de dire, c'est exactement ce que disent les responsables iraniens.
Au lendemain de la révolution, je ne suis pas resté que 3 mois, monsieur.
Oui, voilà. Mais enfin, ce que vous venez de dire sur le dossier nucléaire, c'est exactement la position de la chancellerie islamique en Iran.
Absolument pas. C'est pas
mais
vrai.
Si, vous venez de dire que le dernier rapport de l'AIE est un rapport politique émis à un moment politique pour des raisons politiques d'un certain nombre de pays, politique intérieure ou électorale. C'est exactement ce que dit le ministère des Affaires étrangères iranien et le représentant à l'AIE. Je suis désolé.
Alors, Monsieur Parham, est-ce qu'on peut aujourd'hui déconnecter le nucléaire iranien d'un contexte politique, justement ?
Non, pas du tout. Pas du tout. On ne peut pas le déconnecter parce que vous n'êtes pas en face d'un régime normal. Vous êtes en face d'un régime qui est anormal depuis l'époque où M. Salamatian était sous-secrétaire d'État. Et jusqu'ici, c'est un régime qui crée des crises depuis 32 ans. Prenez aujourd'hui, il n'y a pas un seul grand quotidien français, allemand ou anglais ou autre qui n'ait pas un dossier sur le nucléaire iranien. Prenez ces dossiers. Le nucléaire iranien a commencé dans les années 50 jusqu'aujourd'hui. D'ailleurs, la création même de l'AIEA est liée à la coopération iranienne nucléaire avec les États-Unis qui date des années 50. Des années 50, du début de cette coopération jusque l'arrivée au pouvoir des islamistes en Iran, y compris M. Salamatian, il n'y a aucune saisine du Conseil de sécurité des Nations Unies. Vous avez des appels d'offres entre, d'un côté, Framatome en France, Westinghouse aux États-Unis ou Kraftwerk, ce qui devient par la suite Siemens en Allemagne, sur des projets atomiques parfaitement transparents. La première phase fut gagnée par Siemens, Kraftwerk. On était en discussion avec Framatome pour les phases suivantes. Et ce n'est qu'après que vous avez saisine une crise d'abord et ensuite saisine du Conseil de sécurité des Nations Unies, et pas seulement sur le dossier du nucléaire iranien, sur le sujet politique, il y a également en ce moment même, comme vous le savez, à la demande de l'Arabie Saoudite, un autre dossier, un dossier de complot terroriste qui est devant l'Assemblée générale des Nations Unies, donc au moment même où l'AIEA débat du dossier nucléaire. Donc c'est un dossier, oui, politique, parce que vous n'êtes pas en face d'un régime normal, vous êtes en face d'un régime qui crée des crises depuis 32 ans, de manière continue, parce que c'est un régime qui, depuis le départ jusqu'à aujourd'hui, est composé essentiellement d'idéologues et d'incompétents.
Alors, pour en revenir au rapport de l'AIEA sur le nucléaire, est-ce qu'il y a aujourd'hui une preuve tangible de la volonté iranienne de disposer de l'arme nucléaire, à votre avis, Monsieur Galt?
Pas plus qu'il n'y avait auparavant. Simplement, il y a un formidable faisceau de présomptions, ça ne constitue pas une preuve, qui décrédibilise complètement l'affirmation du gouvernement iranien selon lequel son programme est uniquement à usage pacifique. Je ne crois pas que des gens qui ont envie de faire de l'électricité aient besoin de savoir comment on fabrique des demi-sphères d'uranium métallique. Je ne crois pas qu'ils aient besoin de se procurer des explosifs extrêmement puissants, qu'ils aient besoin de se procurer des éclateurs pour permettre que cet explosif soit mis à feu tout en même temps pour véritablement exercer une pression très uniforme sur ce sur quoi il s'agit de faire pression. Ni toute la liste de ce que l'AIEA vient d'énumérer. Donc c'est une question de crédibilité, mais depuis le début, n'est-ce pas ? Dès le départ, quand on a appris, et je voudrais peut-être apporter une précision là-dessus, les réacteurs qui avaient été construits par Siemens et par Framatome, qui allaient être construits par Framatome en Iran, ces réacteurs ne présentent aucun caractère de danger. Il n'y avait pas de raison à ce moment-là de saisir le Conseil de sécurité. Là où c'est devenu grave, c'est quand on a appris que clandestinement, l'Iran, depuis 18 ans, essayait de se procurer les techniques d'enrichissement d'uranium en dissimulant ce qu'il faisait et en refusant de répondre aux questions que posait l'AIEA. Ça, effectivement, c'était dangereux, ça nécessitait d'être porté devant le Conseil de sécurité, et c'est à partir de là que les choses deviennent beaucoup plus sensibles.
Nous étions actionnaires de Rediff.
Monsieur Parham.
Nous étions actionnaires de Rediff.
Oui, mais là, n'est-ce pas, je voudrais apporter une précision parce qu'on le dit trop fréquemment. L'Iran était actionnaire d'une société filiale de Rediff qui est Sofidif. Ils avaient par conséquent la possibilité d'intervenir dans le conseil d'administration de Sofidis et donc de dire comment les placements, les investissements devaient être gérés. Ils n'ont jamais eu l'accès aux techniques d'enrichissement par l'intermédiaire de Rediff et ils n'ont jamais eu là, par conséquent, de connaissances pour en conduire un programme militaire.
C'est ce que je suis en train de dire, c'était des actionnaires.
Oui, monsieur Salamatian.
Je ne crois pas que le problème soit d'aller voir il y a 50 ans, il y a 40 ans, comment était le problème nucléaire ou la coopération nucléaire iranien avec les autres pays du monde. C'est évident qu'à ce moment-là, c'était un autre régime qui avait d'autres relations et d'autres confiances. N'oublions pas que dans les documents du ministère des Affaires étrangères iranien, je l'ai vu, qu'en 1973, c'était M. Peres et les Israéliens qui proposaient au Shah de l'aider pour transformer son programme nucléaire à un programme militaire. Et c'est le Shah qui avait refusé ça à cette époque-là. Mais le problème, c'est de voir depuis l'époque où c'est en 2005 qu'après l'arrivée de M. Ahmadinejad au pouvoir et sa politique de provocation, sa politique qui a voulu essayer d'utiliser le dossier nucléaire d'une certaine manière pour renforcer sa politique radicale, que le dossier nucléaire iranien est devenu l'objet de préoccupations de Conseil de sécurité des Nations Unies. Avant, c'était des investigations de l'agence. Mais je considère que le dossier nucléaire, ses implications, la nécessité de pouvoir mener une politique efficace pour pouvoir assurer la non-prolifération exige de faire tant que possible isoler le dossier nucléaire avec les contextes de instrumentalisation de ce dossier pour d'autres desseins. À partir de ce moment où on réussira à faire ça, on peut donner toute la force de la communauté internationale et même l'opinion publique iranienne pour pouvoir faire de la sorte que tout le monde puisse négocier dans une situation pour savoir qu'aujourd'hui, un Iran nucléaire est danger pour le monde entier et aujourd'hui, menace d'Iran nucléarisé, c'est un danger qui menace l'existence même de pays qui s'appelle l'Iran. Ça, c'est une autre situation. À mon avis, aujourd'hui, le dossier nucléaire est un dossier trop grave pour être utilisé comme un moyen de guerre, de propagande ou un moyen de règlement de comptes politiques par les uns et les autres.
Est-ce que ce n'est pas l'opacité du régime iranien aujourd'hui qui pose problème vraiment? Si l'Iran a des intentions pacifiques, pourquoi refuse-t-elle une transparence qui prouverait sa bonne foi, à votre avis?
Le pouvoir iranien, ce n'est pas un pouvoir monolithique. Le pouvoir iranien, c'est un pouvoir qui est opaque, qui est idéologique et malheureusement, depuis quelques années, est dominé par les tendances les plus radicales qui recherchent d'une certaine manière le défi. Ils lancent le défi. Si on le répondre positivement, on ne fera qu'aggraver la crise.
Monsieur Parham ?
Oui, une nouvelle fois, je suis en désaccord avec monsieur l'ancien sous-secrétaire d'État de Khomeini. Pour une bonne raison. D'abord, ce n'est pas nouveau, comme je le disais avant. C'est votre gouvernement, monsieur, qui a mis fin à nos accords atomiques avec les Occidentaux.
Non, le
ça s'est fait sous votre gouvernement.
Le gouvernement a arrêté tous les accords civils et militaires atomiques et c'est l'histoire qui dira est-ce qu'il a eu tort ou il a raison.
L'histoire est en train de le dire, monsieur. Sinon,
arrêter toute activité nucléaire en Iran, arrêter même le contrat nucléaire civil, c'était dangereux ou c'était bon?
Oui, monsieur, c'était dangereux. Nous avons eu les conséquences. Oui, vous avez mis fin. Votre ministre de tutelle, monsieur l'ancien sous-secrétaire, votre ministre de tutelle a mis fin à ces accords, y compris dans le domaine militaire. Nous avons payé.
Alors, nous mettons fin.
C'est pas monsieur Sanjabi qui a mis fin, c'est monsieur Yazdi qui l'a mis par la suite.
Monsieur Salamatian.
L'amalgame est mélangé tout. Nous sommes dans une émission de radio pour parler de nucléaire iranien et non pas le règlement de compte de son monsieur.
Non, monsieur.
D'accord, monsieur. Salamatian, monsieur Parham, nous arrêtons ce débat maintenant. Nous reprendrons dans la deuxième partie. Géopolitique, le débat consacré au nucléaire iranien. Nous retrouvons nos invités, Georges Le Gelt, Ramin Parent et Ahmed Salamatian après le flash d'actualité.